Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on discute avec Frédéric Béra d'Amérique centrale et de droits fondamentaux. Le Monde d'aujourd'hui du vendredi 8 mars. Vendredi 8 mars, c'est notre invité aujourd'hui. Il nous revient d'Amérique du Sud et c'est un ami de l'émission, un ami tout court aussi pour moi. C'est Frédéric Béra. Bonjour Fred.
Bonjour Julien.
Donc avec toi, on va discuter de ton voyage en Amérique du Sud car tu es allé observer ce qui se passe en ce moment au niveau des droits humains. En Amérique centrale, excuse-moi. Mm-hmm. Tu es allé observer ce qui se passe en ce moment au niveau des droits humains et c'est quelque chose d'assez évocateur sur les risques qu'on encourt ici par rapport à ce que tu appelles l'extrême droite qui ne serait pas fantomatique. Tu utilises beaucoup ce mot en ce moment dans tes réseaux sociaux quand tu parles des différentes montées en matière de populisme. Et l'Amérique centrale, sous couvert de lutte à la sécurité, ce que des résultats montrent, c'est énormément de personnes sans procès, après, perdent toute liberté, journaliste, politicien, même personne lambda qui va faire ton pain, qui va être ton boulanger, parce qu'il a zioté de telle ou telle manière et on va dire que c'est un criminel et un narcos. Donc explique-nous un peu ce voyage. Pourquoi déjà t'es parti faire ce voyage aussi au départ?
Je fais ça moi depuis, 7-8 ans peut-être. Ouais. J'ai fait une cinquantaine de pays jusqu'à maintenant. Je me promène pour essayer de comprendre un peu mieux les régimes, qu'est-ce qui se passe. Parfois ça se passe plutôt bien, parfois ça se passe moyennement bien et souvent ça se passe assez mal.
Et là tu me disais, c'est ça, tu as eu le ressenti, surtout vers la fin de ton séjour dans la région, où tu te faisais suivre.
Ah ben ça, en fait j'ai eu la confirmation à vrai dire. Ça c'était au Nicaragua, qui est clairement une démocratie de façade, là, je m'en doutais, là. Bon, je ne suis pas stupide, mais ce pays-là moi, m'a toujours...
Fasciné
depuis l'affaire des contrats et tout. Et Ortega, j'ai dit, mais c'est qui cette espèce de moineau-là qui est revenu, hein, parce qu'il était très à gauche à l'époque. Là. C'est lui, d'ailleurs, qui a lutté contre les contrats, en quelque sorte. Et il est revenu, il a voulu revenir, ça n'a pas fonctionné. Finalement, il a fini par réussir. Et il a complètement flippé, viré sa veste. La vice-présidente et sa femme. Bon, ça déjà, c'est un peu curieux. Mais ce qui est
ça
en
fait un peu penser à House of Cards.
T'imagines? Mais le plus drôle, façon de parler, c'est pas drôle du tout, c'est que cette même femme a toujours appuyé les dictatures nicaraguayennes. Et donc, là, moi, on m'a expliqué là-bas, puis ça a été difficile de faire parler les gens parce qu'ils ont...
Ils ont peur.
Je te jure, la chienne. Mais c'en était lourd, tu sens le climat. Et tu vois, tous les journalistes, pas tous les journalistes, mais la plupart des journalistes, en fait, ceux qui sont pas complaisants vers le régime, sont en prison.
Un peu comme en Russie, quoi. Ce sont des ennemis, l'étranger, on leur accole tout et on les fout en prison.
Il faut aller voir les rapports du Human Rights Watch, Democracy Index, tout ça. Moi, je l'ai validé.
Ouais.
Et c'est vrai. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent les journalistes et ils leur patentent des fausses accusations de sédition, espionnage, terrorisme, machin. Ils vont te défendre contre ça par la suite. Ouais. Et ils font ça aussi, évidemment, avec les gens sur place, avec les locaux, passons à l'expression. Il y a un curé qui est l'espèce de... qui est devenu un martyr national, en quelque sorte. Tous les manifestants, ou à peu près, face à la réforme de 2018, se sont ramassés en dedans. On a fermé, écoute bien ça, 12 universités, c'est-à-dire à peu près la moitié des universités du pays, parce qu'il y a des profs qui ont osé critiquer le régime.
Donc, à partir de là, c'est une des raisons, en fait, par exemple, pour ce pays. On pourra aller sur les autres pays où, là, c'est la criminalité qui a été la cause, la lutte contre la criminalité qui a été la cause d'un tournant vers la dictature. C'est que pour ce pays, c'est le tournant normal de populisme extrême droite, contrôle total absolu de la pensée.
En fait,
et ça provoque des fuites. Après, fuite des cerveaux et fuite des gens tout court.
Il y a une différence entre le Nicaragua et le Salvador. Puis je te l'explique. Le Nicaragua, ça a toujours été très difficile. Hein, ça a toujours été compliqué, notamment par la faute des Américains, parce que les contrats étaient financés, on le sait.
Par la CIA. Ouais.
Voilà, exact. Et donc, ça pour dire, les journalistes là-bas, il n'y en a pas. J'ai vérifié. Je ne vais pas faire une enquête exhaustive, là, mais il n'y a pas de journalistes canadiens et américains parce que les gens... Puis moi, c'est un peu pour ça que j'y allais, pour essayer de provoquer la machine. Et j'ai été suivi par des agents gouvernementaux. Ça, moi, l'a démontré. Ce qu'ils font habituellement, moi, je savais là, qu'il y avait quelqu'un qui... Bon. Et je me suis engagé deux guides pour essayer de voir voir un peu, puis j'ai fait parler un petit peu à la caméra. Ouais. Et là, j'avais l'impression, à toutes mes questions, puis je faisais attention à ce que je disais, j'avais l'impression d'être Tintin chez les Picaro. Là. Ouais, on me racontait des histoires épouvantables, ouais. Genre, mais les contrats, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, ben ça fait longtemps, j'étais pas né. Ouais, moi, j'avais 4 ans, mais je m'en rappelle quand même, c'était pas mon pays. Ah ouais, ben bon, blablabla. Toutes sortes de trucs. Il y a quand même eu 200, 300 000 réfugiés qui sont maintenant au Costa Rica. Ouais. Ah non, 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 c'est pas vrai. Ben, il y a des gens qui sont partis, mais sont partis de leur plein gré. Oui, les réfugiés, on peut dire qu'ils partent de leur plein gré, mais à quelque part, c'est pas nécessairement parce qu'ils souhaitaient le faire. Mm. Ah, ben là, maintenant, ça va mieux. Il n'y a plus personne qui quitte. Bon, tu vois, genre d'affaires. Ouais. Et je savais, le gars s'appelait Ryan, parlait un anglais, je te jure, impeccable. Je me suis dit, mais où t'as appris l'anglais? Il n'y a personne qui parle anglais comme ça en Amérique centrale. J'ai fait tous les pays d'Amérique centrale. J'ai jamais entendu parler.
Même en Amérique du Sud.
Ça n'existe pas, ça. Mais zéro accent. Ouais. Son anglais, il est, je répète, impeccable. Ah, il dit, je sais pas trop, mais je dis, tes parents parlent anglais? Il dit, non.
T'as vu le poteau rouge? T'as commencé à sortir le poteau rouge.
Pour moi, là, c'était évident. Puis je savais que je courais un risque parce que les guides m'avaient été suggérés par l'hôtel où j'étais. Donc, je me dis, bon, nécessairement.
Les hôtels sont souvent contrôlés. Un peu comme pour être allé en Russie, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, tu ne peux aller quand tu es étranger que dans certains hôtels mandatés par le gouvernement où tu donnes des numéros d'identification.
Mais voilà, non, non, c'est. Puis, je le savais, là, je ne suis pas sans dessin, mais il y a un côté de moi qui me disait, écoute, le gars, il, je sais pas, il avait même pas 30 ans, super gentil. Il dit, je travaille pour une entreprise américaine. Genre, oui, laquelle? Ah, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis manager. Ah, t'es manager, OK. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à faire des trucs comme avec moi? Là, okay. Mais bon, en tout cas. Et là, tu vois, je lui demandais, est-ce qu'on peut aller souper avec tes chums? Je vais payer le souper, évidemment. Je peux payer une coupe de bière, ce que vous voulez. Puis je vais vous payer un petit quelque chose. Puis on juste jaser du pays et tout. Oui, 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 j'organise ça, ta. Finalement, écoute, il n'y avait rien à faire. Il ne voulait plus rien savoir. J'ai essayé de le rejoindre plus tard. Son numéro ne fonctionnait plus. J'ai dit, écoute, tu étais supposé m'ajouter sur Facebook et puis sur Twitter. Il dit, ouais, il dit, j'ai pas été capable de te trouver sur Facebook. Je me suis dit, c'est pas sorcier. Là. J'avais donné un petit papier. Bon, avec ma face, il n'a pas 100 000. Et puis, il dit, ah non, non, mais regarde, moi, je vais t'ajouter. Alors, c'est Ryan, quoi ton nom? Puis là, il y a une hésitation. Il dit Rosales. Je dis, OK, parfait. R-O-S-A-L-S, oui. J'ai lequel là-dedans? Ah non, non, il dit, tu me trouveras pas. Sinon, mais j'ai dit, OK, mais c'est quoi ton nom d'abord sur Facebook? Ah non, ben là, il dit, c'est compliqué parce que... Fait que là, j'avais 1+1+1+1+1. Puis là, je t'épargne un paquet d'autres détails. Et j'ai recommencé à faire l'émission de mon chum, Denis Lévesque, là, comme tu sais, depuis, je sais pas, quelques semaines, quelques mois. Et Serge Fortin, qui travaille avec Lévesque, lui, il est content de m'envoyer dans ces places-là, là, parce que bon, ça, il fait des reportages et tout. Il m'appelle, il dit, OK, Fred, là, il dit, bouge pas, faut que je te passe quelqu'un. C'est Arnaud, c'est notre technicien, c'est le fils d'un couple de Nicaraguayens qui est né là, si je ne me trompe pas, qui dit là, il faut que vous sortiez de là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Serge m'a raconté, vous êtes fiché, ce gars-là, il travaille placé à IE, c'est sûr, entre il est payé par le gouvernement, c'est la façon de procéder avec les guides, ce que je me disais. Puis il dit, sortez du pays, je dis, mais je comprends, là, mais je ne peux pas sortir à nage, là, je passe par l'aéroport tôt ou tard. Puis finalement, bon, j'ai fini par passer, ça s'est réglé. Peut-être qu'ils ont vu que je n'étais pas terriblement dangereux, parce que j'essayais de les embobiner un peu. Ils me montraient des trucs. Mm. Par exemple, Denis Martinez, l'ancien lanceur des Expos, il est né à Granada, premier joueur des Ligues majeures. On est allé voir ça. T'sais, je dis, moi, je veux montrer le beau de votre pays. Puis, de temps en temps, je posais une petite question au curveball pour essayer de ramasser de l'info. Fait que, bref, ça, c'était le Nicaragua.
Mais le Salvador,
je suis sorti là à la course. C'était drôle, mais c'était bien. Et les gens ont peur et c'est triste. Le Salvador. Ça, par contre, c'est
différent. C'est la dictature la plus cool du monde.
T'as compris, mon ami. Et je me suis même acheté une casquette de Bukele qui est maintenant, avec sa photo dessus, qui est maintenant dans ma bibliothèque. Mes amis trouvent ça assez rigolo. Parce qu'il s'est auto-proclamé, tu l'as bien dit, le dictateur le plus cool du monde. Au début, moi, je pensais que c'était une blague.
Puis mais il l'a fait.
C'est pas une blague du tout. Écoute, le gars est rentré. Écoute bien ça. Il y avait 75 000 membres de gangs de rue, en fait.
Le Salvador, c'est vraiment un pays où, pour avoir écouté l'émission, l'entrevue que tu as fait avec Denis Lévesque sur le sujet du Salvador, et c'est connu, c'est un pays où les gens, même en journée, ils avaient peur de sortir dehors. C'est pas l'équivalent de Port-au-Prince en ce moment en Haïti.
Ce pays était tenu
gouverné par les gangs.
En otage, voilà. Gouverné. Écoute, il y a des petits artisans dans la rue, là. OK, regarde, tu vois les bracelets, là, des trucs du genre, là. bon, je les ai à l'écran, j'ai fait des témoignages. Là. J'étais allé chercher un témoignage, puis il me disait, on était obligé de payer notre permis, non pas au gouvernement, mais aux gangs de rue.
Un peu comme quand tu payes ta protection à la mafia.
Mais c'est la même chose. Ouais. Ici, au Québec, là, il y a peut-être une couple de bars de danseuses en région là, qui font encore la même affaire avec les Hells Angels, mais eux, ça va jusqu'aux petits artisans de rien du tout. Là.
Et s'ils ne pouvaient pas payer, ils sont kidnappés ou ils se font trancher la tête.
C'est fini.
Des trucs comme ça, c'est fini.
Ces gangs-là sont parmi apparemment les gangs les plus violentes du monde. Je te donne un exemple. Moi, mon hôtel était dans un quartier qui s'appelle San Diego, qui est apparemment l'un des plus dangereux du Salvador à l'époque. Et mon hôtel était dans une espèce de semi... Ben, pas de, dans un cul-de-sac, si tu veux, en quelque sorte. Et les gangs de rue se gâtaient, ils attendaient les gens là. Et là, tu peux pas sortir, tu peux pas partir de l'autre côté.
Et ils prenaient tous les effets.
Il y a des barbelés encore... Partout, devant chaque clôture de résidence, et sont chapeautés par justement des barbelés. Et écoute ça, c'est d'une terreur épouvantable. Leur truc de ces gangs à ces gangs de rue là, c'est qu'ils débarquaient dans n'importe quelle maison à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Tu vas nous passer ta fille adolescente pour quelques heures. Puis il n'y en est pas question. Ben si tu le fais pas,
on te tue.
Et ainsi que le reste de ta famille.
Fou.
Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas une anecdote, là.
Ouais.
C'était un pattern.
Ouais.
Et je suis allé voir le plus haut, le troisième, en tout cas, je pense que c'est le plus haut volcan, en fait, du Salvador. En tout cas, peu importe, ça s'appelle Santa Ana. C'est quand même, une bonne randonnée. Et il y a de ça 2 ans à peine, les guides, en tout cas, peu importe, avaient des mitraillettes, des AK-47. Et moi, je suis allé. Puis on m'a raconté que les gangs de rue attendaient là.
Les touristes.
Parce que souvent, il y a des touristes, pas uniquement, mais souvent. Et il y a eu des histoires de viols collectifs en plein jour, en haut du volcan, là. De viols collectifs, genre la dame X se fait violer devant les yeux de son chum et devant les yeux des 50-60 autres randonneurs qui sont là, terrifiés. Puis ils ont tous des mitraillettes dans le front, là. S'il y en a un qui bouge, il y en a un qui parle, on tire, puis on te garoche dans le volcan. Je veux dire, ça, là, puis c'était pas juste un truc de touriste, là.
T'es généralisé.
Ouais, non, mais partout.
Donc là, arrive Nabilu.
Des policiers se font tirer dessus. En tout cas, bref, le bordel. Et là, arrive Bukele. Bukele, c'est un jeune, à l'époque, probablement même pas 40 ans.
D'origine palestinienne, en
fait. Oui, exactement, oui. Et débarque là, puis là, il fait une entente avec les groupes organisés, parce qu'il y a 75 000 bombes qui prenaient en otage une population de ni plus ni moins 7 millions. Pense-y. Alors là, il se dit, écoutez, les amis, il fait une rencontre au sommet avec les leaders de ces gangs-là. J'ai quelque chose à vous proposer. Tirez moins du gun, puis je vais vous compenser financièrement. Les gangs de rue ont dit, super, on va être financé par l'État pour se tenir un peu plus tranquille. Dans l'entente, de ce que j'ai compris, du moins, là, évidemment, j'étais pas là, c'était pas ne tirez plus de gun, c'était pas ça.
Ouais.
Tirez-en moins par rapport à la population civile. Évidemment, ils n'ont pas été capables de s'empêcher. Et là, Bukele a dit, là, les petits copains, le party est fini. Alors, en 2022, au printemps 2022, si je ne fais pas erreur, il a adopté l'état d'urgence.
Ouais.
L'état d'urgence étant, OK, tout le monde en dedans. Les policiers, les soldats et autres avaient des bonus à chaque fois qu'ils en ramassaient un. Et tous ceux qui assuraient la délation d'un de la gang aussi. Mais l'affaire qui arrive, qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas d'accusation ou il y a encore moins de condamnation. S'il n'y a pas d'accusation, il y en a un sacré paquet qui se sont ramassés là-dedans.
Ouais.
Qui ont
l'immense
rien à voir.
Prison qui a été construite puis a été vendue au monde.
La plus grande prison du monde, 40 000 détenus, financée par la Chine, qui est en train de rentrer les bitcoins aussi. Écoute, c'est parce qu'on essaie de prendre Bukele, c'est pas une épée. Là. Il est en train de prendre ses distances des États-Unis. Et là, mais qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment qu'il y a un paquet de gens là-dedans qui ont rien à voir. Ou, tu sais, c'est l'ami du gars qui était dans l'appart en train de manger des chips quand la police est débarquée. Bon, mais là, ils ont pas de procès, ils ont rien, ils vivent comme des animaux. Et moi, j'ai obtenu des témoignages par écrit de la famille d'un des gars qui est là, qui me dit qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Bon, tu sais, je sais pas, moi, je le connais pas, mais peu importe. Gardien de prison, dis-toi, toi, mon Julien, t'aimerais ça manger cette semaine? Oui, j'irais pas ça. Parfait, ben écris à ta famille de virer 160$ US dans mon compte cet après-midi. Autrement, oublie ça. Fait qu'il y a de la corruption, évidemment. Ouais. Mais là, tu vas me dire, OK, oui, mais ça a réussi. Puis tu sais quoi? La réalité, c'est que oui, ça a réussi.
Mais à quel prix?
Ben voilà. Et là, moi, j'ai parlé, j'ai plusieurs témoignages. Contrairement au Nicaragua où personne ne veut parler, là, tout le monde. Tout le monde voulait me parler de ça. C'est comme ça, en claquant des doigts. Puis il disait, mais c'est magnifique, ce gars-là nous a libérés. C'est un peuple, Julien, qui mourait sous la peur. C'est, j'ai vraiment vu ça. Et là, je suis arrivé là, moi. Ils venaient de s'auto-libérer, en fait, en quelque sorte. Puis je leur dis, je comprends tout ça, mais vous ne trouvez pas ça dangereux? Parce que là, premièrement, il y a
c'est
des...
C'est que quelles seront les prochaines libertés? Ben... Quel sera le si là, il y a un prétexte, certes, compréhensible, quel pourrait être le prochain prétexte moins compréhensible pour continuer un peu une marche vers un pouvoir de plus en plus autoritaire? Ben, et c'est souvent ça, le pouvoir amène le voilà. pouvoir dans ce genre de choses. Ça a toujours marché comme ça. Pourquoi ça changerait?
Quand je leur posais la question, je dis là, dictateur le plus cool, c'est le fun quand vous le trouvez le plus cool, mais le jour où vous le trouverez plus cool, il va se passer quoi? Puis ils me disaient tous, on verra rendu là. En d'autres termes, regarde, on est tellement contents de revivre. Écoute, les restaurants ferment à 7 heures. À l'époque, c'était tous 7 heures, là, il y en a encore. Pourquoi? Parce que personne ne voulait sortir après 7 heures. Ouais. Tu sais, c'est pas des maudites farces. Ouais. Et tu ajoutes à ça ceci, et ça, c'est grave. C'est que Bukele avait le droit de faire un mandat.
Ah, comme d'habitude.
Et là, à la fin, t'as beau venir, à la fin du mandat, bon, là, j'aimerais bien ça me représenter. Il y a 15 juges à la Cour suprême du Salvador. Il y en a congédié 5 par un vote du 2/3 du Parlement. Ça, c'est déjà... Ça, c'est le fantasme de certains de nos amis qui croient pas à l'état de droit, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Et il y en a congédié 5 sur 15. C'est congédié des juges, déjà, à base. Aucun mot du bon sens. Et il les a remplacés par des amis. Et là, il est allé revoir les juges. Là, moi, ça m'a représenté une deuxième fois. Et là, évidemment, les 10 autres avaient le goût de garder leur job.
Moi qui viens de France, ça me fait penser à ce qu'avait fait un certain consul à l'époque où, pour obtenir un poste. Et après, il est devenu empereur, mais après, on ne sait jamais. Ah, ça marche toujours comme ça.
Oui, ça commence comme ça, mais on ne sait pas comment ça finit.
Mais le truc, c'est que ce qui est assez drôle, c'est de voir, en fait, c'est toujours la même chose avec ces dirigeants populistes. C'est qu'ils commencent comme ça, les gens sont heureux et ils profitent au fur et à mesure du bien net de la population, population qui s'endort rapport à ses droits, par rapport à l'importance de lutter pour ses droits, pour en retirer de plus en plus. C'était, je ne sais plus, qui au moment de la révolution, au moment de la guerre civile, face à l'absence de liberté, le sang et tout ça, on perdra la liberté, on perdra le pouvoir. Je sais plus comment. Je crois que c'était Lincoln ou quelque chose comme ça qui avait sorti. Ça marche toujours de la même manière.
Ben oui.
Et face à des dirigeants populistes qui veulent dire, regardez, je vais vous sauver, je vais vous contenter, faites confiance en moi. Et regardez ce qui se passe à la fin. Et on voit le même genre de problème en France où ces dirigeants, ou en Europe, les dirigeants populistes qui ont le remède miracle face aux crises. Regardez, face aux crises, faites-moi confiance, je vais vous sauver. Et regardez ce qui se passe, c'est plus de tensions, plus de troubles à la fin et moins de liberté.
C'est toujours la débandade. Tu vois, ce qui est problématique, c'est que là, il y a un contrôle sur le judiciaire. Il y en a qui écrivent, les juges, on s'en fout, c'est le peuple, c'est l'Assemblée nationale qui doit décider des droits et libertés. Ben non, oui, en partie, là.
Le parallèle se le parallèle se fait
On n'a pas besoin de ça, des juges. Ben, à ce moment-là, vous ne voulez pas vivre dans un état de droit. Puis moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est OK, tu ne veux pas vivre dans un état de droit, ça se défend, mais tu ne veux pas vivre dans un état de droit, contrairement à ce que tu penses peut-être, tu ne veux pas vivre en démocratie. Parce que trouve-moi une seule vraie démocratie qui n'est pas fondée sur un seul vrai état de droit, vous n'en trouverez pas, ça n'existe pas.
On est tous les deux des juristes à la base. Quand tu prends, par exemple, la décision sur la loi 21 qui a été rendue la semaine dernière, je sais que tu ne peux pas trop parler parce que tu as un avocat dans ce procès, mais beaucoup de gens disaient, ouais, les juges, comme c'est la cour d'appel, c'est fédéral et tout. À la fin, la décision a été rendue d'une manière juridique, mais claire et limpide. Le droit, c'est ça, ça a été fait ainsi, on ne voit pas de problème juridique dans le choix et tout, donc on rend cette décision. Et là, comme par hasard, les gens qui sont contre cette idée de gouvernement des juges, on dit mais
finalement, c'est donc
finalement
bien.
C'est bien. Ayons confiance toujours aux juges, ils sauront interpréter le droit tel que c'est. On a tous les deux des opinions contraires sur la loi 21, mais on fait confiance aux juges à la fin et au droit parce que le système est fait ainsi et préserve la démocratie.
Oui, puis tu veux ça, tu veux avoir un contrepoids, tu veux avoir une décision. Moi, là-dessus, moi, ce que je peux dire, c'est que. Évidemment, là il y en a plusieurs qui ont l'air de fêter. Ils font quasiment la parade de la Coupe Stanley. Je veux bien, là, mais une partie de hockey, je me souviens pas qu'on ait vu un score final après deux périodes. Et tout le monde sait depuis le début que c'est une décision qui s'en va à la Cour suprême. Pourquoi? Parce qu'on demande à cette même Cour suprême, on lui demandera, de renverser son précédent dans Ford, en fait, de manière partielle, c'est-à-dire en balisant un minimum la disposition dérogatoire. Ça, c'est mon idée depuis le début. C'est moi qui ai initié les procédures. Je continue de le penser. Et ici, dans la décision de la Cour d'appel, je ne veux pas critiquer, mais si j'ai quelque chose à dire, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire la preuve qu'il y a du nouveau juridique si, au contraire, pour renverser un précédent, ça prend de la preuve extrinsèque, comme par exemple dans l'arrêt Carter, hein, la Cour suprême avait renversé son précédent dans Rodriguez sur l'aide médicale à mourir en disant la société canadienne a évolué. Bon, ben nécessairement, il a fallu considérer de la preuve hors juridique par la force des choses. Dans l'arrêt Saskatchewan Federation Board, même affaire sur le droit de grève. On est obligé d'analyser ce qui s'est passé dans la société et ça, c'est de la preuve qui existe. Moi, cette preuve-là, je l'avais déposée en Cour supérieure. Elle a été acceptée. Human Rights Watch, Democracy Index, des rapports de lieu, un paquet d'affaires sur l'évolution du populisme. Parce que pour moi, cette dérogatoire-là, à l'époque versus la dérogatoire aujourd'hui, il y a une énorme différence pour toutes sortes de raisons qu'on connaît bien.
Ouais.
Et ce qui est le danger, c'est que si on n'évalue pas la question de l'évolution du populisme, puis on répond « Ah ben là, 33, donc, c'est comme ça, ça n'a jamais bougé », ben il n'y aura jamais de renversement possible.
Donc l'idée de souveraineté parlementaire, qui est à mon sens normale, puis il faut savoir la contrôler quand on voit que dans la souveraineté parlementaire et plutôt dans le comportement des parlementaires, beaucoup plus d'idées populistes qui sont contraires à l'état de droit se sont insérées, rendant caduques certains éléments.
Par exemple, quand on demandait à François Legault quel est l'objectif de cette loi-là, la loi 21, une fois qu'elle est adoptée, il dit « L'objectif, c'est de faire plaisir à la majorité. »
Okay. Sauf la dictature de l'opinion.
Mais c'est parce que à ce moment-là, on n'a plus besoin de charte. On va laisser faire, on va pas se casser la tête. Et qu'on se comprenne bien, moi, la dérogatoire, elle est constitutionnelle, elle est légitime. Oui, c'est important pour protéger la souveraineté parlementaire, mais pas, à mon sens, tout azimut, de manière préventive, sans qu'il y ait de lien à faire avec la loi et ses objectifs. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une seule condition lorsqu'on souhaite utiliser la dérogatoire pour le législateur, puis c'est celle-ci, c'est démontrer que le législateur, donc, poursuit un objectif qui est réel, urgent. Si la réponse, c'est oui, c'est parfait, mais c'est un test minime, c'est le test le plus facile du monde. Par exemple, pour la loi 96, c'est protéger le français. C'est parfait. Le test est réussi, merci, bonsoir. Comme ça sera le cas pour la plupart des lois qui utilisent la dérogatoire. Mais dans 21, si tu me dis que ton objectif, c'est de faire plaisir à la majorité, ça me semble pas, moi, un objectif qui soit bien sérieux pour pouvoir suspendre des droits.
Moi, surtout sur la question de la laïcité, à mon sens, c'est quelque chose que j'avais eu des discussions un peu, par exemple, avec un de nos amis communs, Guillaume Rousseau. Je viens de France. Je suis très laïcard à la française. Ça vient d'un héritage du fait d'où je viens. Et quand j'analysais cette loi, et je l'ai analysée, à mon sens, je la voyais plutôt comme une catholaïcité qu'une vraie laïcité qui devrait s'attaquer à toutes les religions de manière égale. Laïcité, il faudrait que toutes les religions, façon de parler, en prennent plein la gueule.
Les écoles privées continuent d'être des religions qui continuent d'être financées.
C'est absurde. Il aurait fallu faire une vraie laïcité telle qu'elle existe en Europe, telle que la CEDH en parle dans certaines choses. C'est la vraie laïcité, c'est l'État débarrassé de l'influence et des financements du religieux.
Parce que la laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité religieuse. Puis la neutralité religieuse, c'est quoi? C'est l'État qui ne favorise pas et ne défavorise pas aucune religion. Guillaume Rousseau a toujours dit, il n'y a pas de discrimination. Ça, c'est assez incroyable de dire ça. Pourquoi? Parce que ça vise toutes les religions, mais c'est pas vrai. Premièrement, si ça vise les religions, c'est une discrimination sur la base de la religion, première des choses. Puis deuxième des choses, dans tous les cas, c'est pas vrai que ça vise toutes les religions. Ça vise seulement les religions où il y a un signe visible. Et là, moi, tu vois, même ce débat-là, je te dirais, ne m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse...
C'est la question du droit.
C'est la question, oui, du droit, mais c'est la question de la dérogatoire. Parce que si demain matin, on a un gouvernement Pierre Poilievre, avec 40 députés au moment où on se parle qui se sont publiquement prononcés contre l'avortement, ça fait en sorte que demain matin, on suspend cette loi-là en claquant des doigts.
Et combien de fois on a parlé tous les deux, quand on a été ensemble à la radio, de l'influence des débats américains, comment ils se transposent ensuite, et de manière de plus en plus forte. On voit que les États-Unis, maintenant, ils ont dépassé l'avortement. Ça en est sur le contrôle de la santé reproductive avec la fécondation in vitro. Même le contrôle du sexe de manière...
contraception.
Pour s'amuser. Certains républicains dans le Sud veulent empêcher le recreative sex. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est des choses comme ça. Sortons la religion de là.
Comment on appelle ça, les embryons congelés?
Ouais, tout ça.
Et au moment où on se parle... Julien, c'est pas drôle, là. Il y a deux États qui font circuler un projet de loi visant à appliquer la peine de mort à des femmes qui se sont
fait avorter. Et à des médecins,
ça, je le savais pas. Mais ça, tu me l'apprends, tant mieux. Quand tu l'as une couche d'absurde ou moins. Et en Ohio...
On est contraire au serment d'Hippocrate. On veut empêcher des médecins de la femme est en danger de mort parce que son bébé, elle doit avorter parce que son bébé est en train de la tuer de l'intérieur, parce que l'embryon est en train, le fœtus est en train, il ne peut pas le faire et c'est contraire au serment d'Hippocrate. Non, mais il risque la prison et en plus de perdre. C'est fou.
Écoute, dernière affaire, puis pour ceux qui pensent que c'est une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une tendance de fond. Là. Quand des législateurs pensent adopter la peine de mort pour mettre à mort des femmes qui se sont fait avoir. Mais pensez-y deux minutes. Là. Puis l'autre dernier exemple pour tout de suite, il y en a en masse. En Ohio, il y a une femme actuellement qui est accusée d'avoir profané un cadavre parce qu'elle a fait une fausse couche dans sa salle de bain.
Oui. Ouais. Ça y est, on en avait parlé en plus.
Alors, mais là, tu vas me dire, oui, mais nous, ici, au Canada, ben, on disait ça aussi de bien des affaires.
Mais dans l'Ouest, il y a des lames de fond dans l'Ouest. Le sentiment anti-science qui monte de plus en plus. Parce que c'est, même si on n'est pas d'accord avec ça, c'est quand même un bon moyen de faire chier les woke. Ben, c'est ça, le truc.
Ben, en plus, aussi, tu vois, moi, je suis très fier de ta France qui a décidé de protéger le droit à l'avortement dans sa conscience. Mais pourquoi elle le fait?
Parce qu'ils voient les choses
ben
monter.
Ben oui, puis la montée
des gens. Ils voient des gens CNews, la chaîne CNews qui le dimanche a une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, qui se dit comme une émission d'actualité, mais qui est en fait une émission commanditée par le patron de CNews, le propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, qui est un catho-conservateur complètement fou, à mon sens, lié à Civitas et à des groupuscules d'extrême droite catho-fascistes, qui met un de ses proches du même style que lui, qui fait venir des prêtres extrêmement conservateurs, que même des gens proches de la conférence des archevêques de France ne veulent pas discuter avec eux, et viennent sortir, par exemple, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et ça fait énormément de polémique, que l'avortement est la première cause de mort dans le monde.
Oui, absolument. Puis là, on dit,
ils ont dit non, c'est une erreur technique pour éviter de perdre leur droit.
Mais moi, je trouve ça, on en a déjà parlé bien des fois, là, mais que les gens ne réalisent pas ce danger-là. Et que cette chaîne-là, CNews, c'est une chaîne de fascistes.
Mais c'est même en dehors de cette chaîne-là en France ou de certains commentateurs d'opinion ici qui utilisent des mots un peu pour préparer un peu le terrain. C'est en fait, je pense que c'est au-delà de ça, les gens sont, c'est triste à dire, mais ils s'en foutent parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils voient le truc, ils veulent s'acheter leur iPhone, ils sont contents. Je perds des droits, je m'en fous, je pourrais aller sur Twitter.
C'est ça.
Écoute, je pourrais regarder Netflix.
Je vais te raconter une anecdote, si tu veux. Là. Moi, ce discours-là, là, ou cette tendance-là que tu viens de soulever, là, ça fait longtemps là, que je l'analyse. J'avais écrit un livre en 2014 qui s'appelait « La fin de l'État de droit ». Et l'éditrice, juste avant qu'on publie, a dit... on cherchait le titre. Puis je ne savais pas, moi, j'avais aucune idée. Puis elle a dit « Je l'ai ». Elle a dit « Ça va être la fin de l'État de droit ». J'ai dit « Marie-Pierre, ça ne va pas être la fin de l'État de droit. Je ne veux pas écrire un livre qui dit un truc du genre ». Elle dit « Ben, c'est ce que tu annonces dans le livre ». Je dis « Oui, mais je vais passer pour un fêlé, là. Je veux dire, je veux secouer les gens un peu par rapport à l'importance des droits fondamentaux puis l'État de droit, mais il faut pas... Ben, » elles ont fait une entente. Elles ont mis un point d'interrogation et puis c'est tout. Je dis « Parfait. » Eh ben, Marie-Pierre Baraton, qui est décédée aujourd'hui, je la salue d'en bas, avait raison, parce que si c'était à refaire, ce bouquet-là...
T'enlèverais le point d'interrogation.
Voilà.
Frédéric Bérard, c'est toujours un plaisir de te recevoir, avocat, commentateur politique et de retour avec Denis Lévesque. On peut t'écouter tous les jours ou une fois par semaine?
Une fois par semaine.
Une fois par semaine à son podcast,
à
son balado, Denis Lévesque le show. Merci à toi, Frédéric.
T'es vraiment bon. Lâche pas, on a besoin de toi.
Merci, ouais. C'est gentil. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM.